Après la prédication, nous allons laisser la place à notre frère Boukhari qui va nous parler un peu avant, parce que demain c'est le grand départ pour lui. Enfin, c'est pas triste, là-bas il fait quand même 40 degrés de plus qu'ici, hein. C'est pas triste, ça, c'est plutôt bon. Voilà, que Dieu le bénisse. On est content, il va retrouver sa femme, son fils, tous les frères et sœurs là-bas, il va leur apporter plein de choses, il y en a pour des semaines à raconter, hein. Tout ce qu'il a vécu avec nous, et on se réjouit de le revoir. Et vraiment, c'est un bon frère. Déjà là-bas, je l'appréciais beaucoup, mais alors là, maintenant que je le connais mieux, je suis ému là. C'est vraiment un très très bon frère. Dieu me permet de rencontrer des perles comme ça, hein. On a déjà Nicolas, et maintenant on a Boukhari, mais vraiment, c'est deux hommes extraordinaires, vraiment formidables. Je suis très très fier, je suis très content que Dieu ait fait que nous nous soyons rencontrés. C'est une très très bonne chose. Je suis sûr qu'on va faire de très très belles choses encore dans l'avenir. Et hier, nous avons rencontré un artisan dans le coin. Nous avons été le visiter. C'est un tailleur de pierre. Quelque chose s'est passé là. C'était extraordinaire. Il lui a fait un cadeau. C'était très très beau, très émouvant. Enfin voilà, les choses ne se font pas simplement, comment dire, froidement. On pourrait dire froidement parce que là, il fait vraiment très froid. Je crois qu'il fait moins 9. Hein. Mais tout se fait avec chaleur, tout se fait avec bonté, avec grâce, et c'est magnifique. Voilà. Eh bien, ce matin, j'ai un peu de mal, là. Je me suis réveillé avec une douleur dans la poitrine. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, ce n'est pas du côté du cœur, donc je n'ai pas trop peur, mais quand même, c'est très embêtant. Et je vous demanderai de prier pour moi pour que ça aille mieux et que je puisse trouver ma mobilité. Mais en attendant, je vais vous prêcher la parole de Dieu. On va lire Proverbe 20, verset 12. C'est un peu la continuation de ce que je vous ai enseigné vendredi soir. Proverbe 20, verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Amen. Non seulement il nous a fait avec des oreilles, mais en plus c'est des oreilles qui entendent, et si elles entendent, c'est parce que Dieu veut qu'elles entendent. Il dit que nul ne peut venir à lui à moins qu'il ne l'attire. Et voilà. Et il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est-à-dire que ceux qui ont été fabriqués de cette manière-là puissent entendre, et puis les autres, ben, ma foi, c'est toute une autre histoire. Un jour, je vous prêcherai, je mettrai le point final à cette série en vous racontant ce qui s'est passé vraiment dans le jardin d'Éden, parce que c'est nécessaire que les chrétiens le sachent. On nous raconte une histoire de pomme, c'est archi faux. Il faut que vous sachiez ce qui s'est vraiment passé dans ce jardin et ce qui fait que nous en sommes là où nous en sommes. Ça sera un morceau difficile à avaler, mais je pense que c'est nécessaire. Ma foi, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Les autres, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose à leur vie, ni à la nôtre non plus. Mais moi, j'aime bien comprendre. J'aime bien comprendre. Et si Dieu veut soulever un peu le voile pour que nous puissions comprendre, eh bien, je pense que c'est bon que nous regardions, que nous écoutions. Maintenant, si Dieu veut nous laisser dans l'ignorance au sujet de ces choses, moi, j'ai très bien vécu sans les connaître pendant des années. Avec le Seigneur, ça allait très, très bien. Je ne les connaissais pas, mais ça allait très, très bien. Mais maintenant, je pense que c'est une bonne chose, puisque le Seigneur nous a montré ces choses ici au sanctuaire. C'est une bonne chose aussi que je les enseigne, pas seulement que je les garde pour moi ou pour une petite élite là, au château sanctuaire, mais qu'on les publie. De toute façon, le Seigneur revient bientôt. Regardez ce qui se passe en Israël là, c'est terrible. Ça fait des années qu'on dit ça, mais là, ça devient grave, grave. Hein. J'ai l'impression là, eh bien que Dieu fasse comme il veut. Nous, on s'attend à l'enlèvement de l'Église, l'épouse. Hein? Frères et sœurs, je crois que nous avons été élus. Je le crois parce que c'est écrit. Vous n'y pouvez rien, vous n'avez rien à dire à ce sujet-là. Il y a des élus, voilà. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Par exemple, quand je vais en Afrique, je fais un appel, il y a des milliers de personnes qui sont là. Je dis, qui veut recevoir Jésus? Il y a plein de gens qui lèvent leurs mains. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce n'est pas parce qu'ils lèvent leurs mains que ils sont élus, ils ont été élus avant la fondation du monde. Maintenant, parmi tous ceux qui lèvent leurs mains, qui entendent l'appel, il y en a qui sont élus. Ah, voilà, et puis d'autres, ben, ma foi, non. Et ça n'est pas injuste, il faut simplement que nous comprenions, si nous le désirons, pourquoi ces choses sont ainsi. Voyez-vous, frères et sœurs, je crois que nous avons été élus. Je ne parle pas donc que de nous qui sommes installés au sanctuaire. Je parle de tous ceux que Dieu s'est choisis de par le monde et au travers de tous les siècles. Et nous avons été élus pour le salut, mais aussi pour, écoutez-moi bien, choisir d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Nous avons été élus pour pouvoir choisir d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Dieu domine par-dessus tout. Il a un plan. Dieu fait en sorte que nos oreilles entendent et que nos yeux voient. C'est Dieu qui fait ça. Jésus, nous avons coutume de dire qu'il est le roi des rois. Mais qui sont ces rois sur lesquels il règne? Eh bien, c'est principalement ses enfants. Nous sommes des rois, nous sommes des régnants sur notre propre vie, sur les circonstances, nous sommes régnants en son nom. Je voudrais qu'on lise un autre proverbe, c'est le proverbe 21, verset 1, qui dit « Le cœur du roi, c'est-à-dire nous, notre cœur, puisque nous sommes rois, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Il incline sa main partout où il veut pour que ça coule là où il veut, comme il veut. Il incline notre cœur de façon à ce que nous fassions ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Frères et sœurs, je vous disais qu'ici-bas, il y a deux forces qui sont opposées. Nous sommes un royaume, le royaume des sacrificateurs pour Dieu. On trouve ça dans Apocalypse 1.6, dans Apocalypse 5.10. Mais il y a un autre royaume, c'est celui des ténèbres. Avec Voldemort. Dans le royaume de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, mais de l'autre côté aussi, mais ils font une œuvre qui le trompe. Ils sont en rébellion contre Dieu, mais ils n'ont pas d'oreille pour entendre, ils n'ont pas Dieu pour voir, et ils font les choses que Dieu veut qu'ils fassent, mais on va y revenir. Nous faisons la volonté de Dieu, celle qui glorifie Dieu. C'est lui qui incline sa main afin que nous fassions ceci ou cela selon son bon plaisir. Alors, je pose la question terrible, que dire du libre arbitre? Ça, c'est quelque chose, les chrétiens adorent ça, le libre arbitre. Avons-nous le libre choix dans notre jugement pour discerner le bien et le mal? Est-ce que vous avez le libre choix pour décider ce qui est bien et mal? Non. Dieu a dit ce qui est bien, Dieu a dit ce qui est mal. Pas le libre choix. Avons-nous le libre choix pour approuver ou pour rejeter ceci ou cela? Non. Avons-nous libre affection pour désirer, pour rechercher le bien ou pour haïr et éviter le mal? Mes frères et sœurs, même si vous aviez la liberté de choix, vous seriez de toute façon enfermé dans une prison, votre corps est là. Vous êtes enfermé sur cette terre, vous êtes enfermé dans ce siècle-ci, vous êtes dans un endroit. Pas de choix. On va prendre ça sous un autre angle. Est-ce que Dieu nous récompensera selon nos mérites? Non, on le sait. Mais alors, moi je vois dans la Bible que nous serons récompensés par rapport aux grâces que Dieu nous a faites. Ne dit-il pas que ceux que Dieu a élus, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Romains 8, 30. Pourquoi sommes-nous glorifiés? De quoi? Pourquoi serons-nous couronnés? Quels sont nos mérites? Nous avons été élus, nous avons été appelés, nous avons été justifiés. C'est-à-dire, nous n'étions pas justes, il nous a justifiés. Ça n'est pas un effet de notre... Ce n'est pas nos efforts. Et la Bible dit plus loin, dans 1 Corinthiens 4, 7, « Si tu as reçu toutes choses, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne les avais pas reçues ?» Ces textes enlèvent toute la force à la croyance au libre arbitre. Et pourquoi le libre arbitre ne colle pas avec les idées de Dieu? Afin de détruire tout mérite. Il faut qu'on regarde la fin des choses. Si nous avions la possibilité de choisir hors Dieu, eh bien, nous aurions des mérites. Mais étant donné que nous ne serons pas récompensés par rapport à ce que nous méritons, parce que nous ne méritons rien, c'est Dieu qui donne tout. Alors, bon, je vous laisse déduire. Dieu est riche, il est libéral à faire bien, il nous rémunère selon la grâce, c'est des cadeaux qu'il nous a fait. Il nous rémunère par rapport aux cadeaux qu'il nous a fait. Écoutez bien, comprenez bien. Il nous rémunère comme si ça venait de nous. Pourquoi ? Parce que en nous donnant le vouloir et le faire devient nôtre, il nous le donne. C'est clair ? Alors il peut nous récompenser. Mais en fait, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui incline nos cœurs. C'est lui. Mes frères et sœurs, Paul dit que tous les hommes sont pervers et adonnés à la malice. Romains 3:10. Alors ça, c'est vrai. Mais c'est ce que nous étions. Maintenant, il a plu à Dieu de nous donner un nouveau cœur. Est-ce qu'on l'a demandé ? Est-ce qu'on l'a cherché ? C'est lui qui nous a cherché le premier. Alors, Dieu a voulu cacher ces choses aux méchants, mais il veut que les siens connaissent ces choses. C'est pourquoi nous les étudions. Quand nous étions du nombre des sans-dieux, nous avions la loi gravée dans nos cœurs. Dieu a fait ça. Il a fait ça pour tout homme. Il a gravé pour toute femme. Il a gravé sa loi dans nos cœurs. Et nous savons bien pourquoi, aujourd'hui, maintenant, que nous sommes venus à la lumière. La Bible dit clairement, et nous l'avons appris par la Bible, que la loi, elle a été faite pour être donnée aux méchants. Ce n'est pas fait pour les justes, ce n'est pas fait pour les élus, c'est fait pour les méchants. Ainsi, Dieu leur dit à eux ce qui est bien, ce qui est mal, et eux, ils ont l'impression de choisir. Et nous avons été du nombre de ceux qui avaient l'impression de choisir. Mais maintenant que nous sommes venus à la lumière, il faut arrêter de radoter les choses que nous radotions quand nous étions encore dans les ténèbres. Dieu savait qu'aucun méchant n'avait le pouvoir d'accomplir sa loi, et il l'a donné quand même. Donc on peut déduire de cela que Dieu n'a pas mesuré ses commandements selon les forces humaines. Ça, c'est très important. Dieu n'a pas donné ses commandements en mesurant, il n'a pas mesuré ses commandements par rapport à la force humaine. Mais, après avoir commandé ce qui est juste, il donne gratuitement à ses élus la faculté, le pouvoir d'accomplir le bien. Gratuitement. Mais on est toujours incapable de faire le bien. Mais il nous en donne le pouvoir, le vouloir, le faire, la faculté. Comment lutter contre cette sorte de foi-là ? Comment renier cette sorte de foi-là ? Comment rejeter cela sans rejeter Jésus-Christ qui dit clairement « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15:5. Si on se regarde, on s'aperçoit que on est bel et bien de temps en temps comme les Corinthiens. Paul les reprenait très durement. 1 Corinthiens 3:3, vous êtes encore charnel, il leur dit. Il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnel ? Il les reprenait. Mais ensuite, il prie que Dieu les rende spirituels. Qui c'est qui va changer la situation ? C'est Dieu. Ont-ils le pouvoir de changer cet état-là ? Non, c'est Dieu qui va les rendre spirituels. Et aux Romains, qu'est-ce que Paul écrit ? Il dit que la justice ne dépend pas de celui qui veut être juste, ni de celui qui court, qui fait des efforts, mais qu'elle est un don de Dieu. Romains 9:16. Cependant, il exhorte les Romains à faire le bien, il les exhorte à se corriger. Pourquoi ? Si c'est Dieu qui fait toutes choses, pourquoi il les exhorte à faire le bien, à changer ? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à nos manques. Les fautes qu'on fait, le mal qu'on fait. Il y a plusieurs raisons. On va voir une ou deux. Quand un frère ou une sœur manque de faire le bien, on peut attendre d'un enfant de Dieu qu'il fasse le bien. Puis voilà qu'un frère ou une sœur fait quelque chose qui nous offense, quelque chose qui n'est pas bien. Cela n'a pas à voir qu'avec cette personne-là. Ça concerne tout le corps de Christ, ça concerne l'histoire du monde. Ça fait partie d'un tout. Tout est lié. Le corps de Christ ne doit-il pas pardonner à ceux qui n'ont pas dans les mains de vouloir accomplir le bien ? Bien sûr. On ne doit pas juger celui qui pêche. On doit lui accorder le pardon. parce qu'il n'a pas dans les mains le pouvoir de faire le bien, puisqu'il a fait le mal. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous marchons droit. Qui peut se vanter de marcher droit si ce n'est que par la grâce de Dieu? Qui peut dire, « Ah, moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour marcher droit. » Aussi, Dieu permet-il que nous soyons parfois l'objet de l'épreuve des uns et des autres? Comment est-ce que tu vas réagir si un frère ou une sœur manque de patience envers toi, ou manque d'amour, ou fait une chose qui t'offense? Comment tu vas réagir? Eh bien, tu fais ce qui t'est donné de faire. Parce que, en fait, tu n'es rien. Celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien, lui non plus. Toute l'efficacité de tes œuvres, planter, arroser, tout ce que tu veux, vient de Dieu qui donne l'accroissement. On trouve ça dans 1 Corinthiens 3:7. En fait, sans Dieu, tu es rien. Ça veut dire rien, ni pour faire le bien, ni pour faire le mal. Tu n'es même pas capable de faire le mal par toi-même. Et de toute façon, qui est capable de circoncire son propre cœur? Qui a le pouvoir de changer un cœur de pierre en cœur de chair? Et qui a écrit la loi dans nos cœurs? Tout vient de Dieu. Et qui nous donne le vouloir et le faire? Tout vient de Dieu. Alors, à quoi servent les exhortations à faire le bien? Pourquoi est-ce que je me tiens devant vous, vous exhortant à faire le bien? Pourquoi? C'est simple. Comme toutes les choses simples, ça nous passe par-dessus. Lorsqu'une personne méprise l'exhortation, son mépris paraîtra au jour du jugement. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, écoute la réprimande parce que cela lui est donné. Ça peut prendre un temps, mais il finit toujours par s'incliner devant Dieu. Sinon, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, ce qui est impardonnable. Mais que peut-il ? La réprimande et l'exhortation servent aux élus parce que Dieu se sert de sa parole écrite et prêchée pour œuvrer en eux. Il œuvre en eux par sa parole écrite et par sa parole prêchée. C'est Ézéchiel qui nous l'apprend. Ézéchiel 11, 19, 20. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ézéchiel 11, 19. C'est compliqué un peu ce que je vous dis ce matin, mais bon. Il faut aussi, il ne faut pas seulement manger, boire du petit lait, il faut de temps en temps passer à une nourriture un peu plus solide. Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Il fait tout ça afin qu'on fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il ne nous donne pas, on ne peut pas faire. Alors à qui la faute? Notre cœur nouveau, c'est un don de Dieu, et ce don nous a été fait pour que nous suivions les ordonnances, les commandements, les exhortations, que nous écoutions les réprimandes. Question, pourquoi y a-t-il des punitions quand il y a désobéissance, puisqu'on ne peut pas faire une chose à moins que Dieu nous ait donné le pouvoir de le faire? Étant donné qu'on trébuche à cause de l'infirmité de notre chair, qui est incapable par elle-même de faire quoi que ce soit de bien, pourquoi est-ce qu'il nous punit? Alors là, Paul, il se fâche et il dit, « Oh, homme, qui es-tu pour dire à Dieu comment il doit faire ce qu'il doit faire ?» Ça met un point final à la discussion. « Mais pourquoi Dieu il punit Pharaon alors que c'est lui qui l'a endurci ?» Hé, hey, t'es qui toi pour juger Dieu? Écoutez bien ça. Si Dieu veut nous préparer par l'exhortation à recevoir la grâce d'obéir à l'exhortation, qu'est-ce qu'on a à aboyer à l'injustice? Dieu, écoutez bien, Dieu nous prépare par l'exhortation à recevoir la grâce d'obéir à l'exhortation. Qu'est-ce qu'on a à rouspéter? Les exhortations, les commandements servent à enflammer notre cœur nouveau pour l'amour de la justice selon Dieu. Et ils servent à nous donner aussi de la haine du péché. la haine du péché. Vous voyez le secret, la grande chose, le voile qui se lève là, c'est que Dieu travaille doublement en nous. Il travaille au-dedans de nous par son esprit et au-dehors par sa parole. Par son esprit, il illumine notre entendement, il forme nos cœurs à aimer sa justice, il nous régénère et, par sa parole, il nous émeut. Il nous émeut, par sa parole, il nous incite à désirer, à rechercher la vie nouvelle, c'est-à-dire le vécu nouveau, par sa parole. Comment serions-nous si personne n'était venu nous le dire? Et le Saint-Esprit ne fera que vous rappeler les choses que je vous ai dites, c'est-à-dire qui sont écrites, qui ont été révélées par les prophètes. Pour les iniques, pour les fils de Caïn, c'est autre chose. La loi les presse dans leur conscience. C'est comme une espèce de garde-fou. Et c'est la première raison pour laquelle il leur donne la loi. La deuxième raison, c'est qu'au jour du jugement, ils seront la bouche fermée parce qu'ils ont connu la loi. La doctrine, la loi, les commandements, tout ça, ça leur est utile parce que pour eux, c'est une odeur de mort qui les attire vers la mort, alors que pour nous, c'est une odeur de vie qui nous attire à la vie. 2 Corinthiens 2,16. Et vous n'avez rien à discuter là-dessus, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, il faut toujours garder à la mémoire que Dieu ne tient pas compte de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas pour décider si oui ou non vous allez entrer dans son royaume. Bon, moi j'ai bientôt 60 ans, mais il y en a parmi nous qui ont 18, 20 ans et qui vont vivre jusqu'à 80 ans si le Seigneur ne revient pas avant. Est-ce que Dieu sait si oui ou non ils entreront dans son royaume? Oui, il le sait. Et pourtant, ils n'ont encore pas commis les péchés qu'ils vont commettre dans 20 ans, dans 30 ans, et qui vont faire pencher la balance du mauvais côté. Ou les bonnes choses qui vont faire que la balance va pencher du bon côté. Dieu sait toutes choses. Mais pourquoi il le sait? C'est là la question. Il le sait parce qu'il a préparé toutes choses à l'avance. Et il nous a élus. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas qu'on est sauvé. On est sauvé par pure grâce, par son bon plaisir. Il nous a élus et tout ce qui concerne notre comportement, votre comportement, le bien que vous faites, le mal que vous faites, tout ça ne sert qu'à la petite histoire. Le meilleur exemple, c'est celui-ci. L'influence de la loi divine dans le cœur des gens, qu'ils soient élus ou pas. Cette influence de la loi divine dans le cœur des gens nous permet de continuer à vivre une vie avec un minimum de paix et de sécurité. Parce que c'est un garde-fou que Dieu a placé en nous. C'est encore Dieu qui l'a fait. L'influence du judaïsme et du christianisme permet au monde de progresser dans un système plus ou moins confortable. Regardez les pays qui ne sont pas sous l'influence du judaïsme et du christianisme. Mais le grand but de l'influence du judaïsme et du christianisme, ce n'est pas que le monde atteigne une perfection en vue de son salut. Pas du tout. Le grand but, le salut des élus, nous a été donné à la croix. Pourquoi est-ce qu'il y a cette influence dans le monde? Juste pour que nous puissions vivre un minimum de confort et de sécurité. Sinon, ça serait déjà l'enfer. Qui est le prince de ce monde? Les actes que nous posons nous permettent juste de manifester d'un côté l'amour de Dieu. Et puis n'oubliez pas que l'amour, c'est un don de Dieu. Vous ne pourriez pas aimer si Dieu ne nous avait pas donné de l'amour. Et de l'autre côté, les choses inverses. Ces choses mauvaises, elles doivent se manifester. Jésus dit, il doit y avoir des scandales. Ça doit se manifester. Parce que Dieu veut en finir avec ça. Dieu connaît le bien et le mal. On trouve ça dans Genèse 3, 22. Ça signifie quoi? Avant qu'il ait créé le monde, il connaissait déjà le bien et le mal. Avant qu'il écrit quoi que ce soit, il connaissait déjà le bien et le mal. Est-ce qu'il faisait le bien? Non. Est-ce qu'il faisait le mal? Non. La Bible nous dit que Dieu est. Ce n'est pas dit qu'il faisait des choses. Et dans son être, il connaissait le bien et le mal. Voilà pourquoi il veut que le mal soit manifesté afin qu'il puisse être détruit. Frères et sœurs, on ne peut pas détruire ce qui n'existe pas dans les faits. Il nous arrive, en tant qu'enfants de Dieu, de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi ? Afin que Dieu manifeste sa bonté envers nous, qui sommes ses élus, mais qui ne sommes pas encore dans la perfection. Quelle gloire Dieu pourrait-il tirer en nous aimant si nous étions parfaits ? Le fait que nous ne sommes pas parfaits, Dieu peut encore en tirer de la gloire en nous aimant, en nous pardonnant, tout à son utilité. Non, ça ne veut pas dire... Paul dit, ben alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas aller pécher exprès pour que Dieu soit glorifié en vous pardonnant. C'est pas ça que... Parce qu'il y en a qui, comme Paul prêchait ce que je vous enseigne là, il y en a qui ont dit, Paul nous incite à pécher afin que Dieu puisse être glorifié quand on s'humilie devant lui. Lisez la Bible, lisez-la bien, c'est ça que les gens accusaient. Paul était accusé de ça. Pourquoi ? Parce qu'il prêchait ce que je vous prêche. Tout doit être manifesté. Vous voyez, c'est pas simple. Mais ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que nous avons été élus. Et que Dieu ne tient pas compte au sujet de nos fautes. Heureux l'homme au sujet desquels tu ne tiens pas compte des fautes. Il ne tient pas de compte. Ces choses ne l'influencent pas. Le mal que vous faites, ça ne l'influence pas. Ça ne l'influence pas. Le bien que vous faites non plus, ça ne l'influence pas. Ces choses ont déjà été jugées il y a 2000 ans. Vous voyez que même là, on n'a pas le choix. Ça a déjà été jugé. C'est fait. Est-ce qu'il vous a demandé votre avis? Non. Et pour ce qui nous arrive, eh bien, il en va de même. Parce que Dieu, pour lui, passé, présent, futur, c'est pareil. Il est. Donc, ce qui nous arrive ou ce qui nous arrivera, c'est comme ce qui est déjà arrivé. Il ne nous demande pas notre avis. Les choses qui nous arrivent, les choses que nous faisons, ne sont que les manifestations de ce qui est hors espace, hors temps. Nous les exprimons parce que Dieu leur donne vie ici-bas dans un but de faire la séparation entre le bien et le mal qu'il connaît. Et il veut se débarrasser de ce qu'il appelle mal. Mais s'il appelait ce qui est mal bien, ben nous serions bien obligés de reconnaître que le mal, c'est bien. Mais étant donné qu'il dit que c'est mal, alors nous nous soumettons, nous disons que c'est mal. Le mal n'est pas en Dieu. Il est dans la manifestation de ce que Dieu a créé. On ne peut pas le nier. Il a créé ce système pour détruire le mal, afin que en lui... il n'y ait plus cette connaissance du bien et du mal. Alors, ne rouspétez pas, ne murmurez pas, ne contestez pas, ne dites pas que c'est injuste. Il n'y a pas d'injustice en Dieu, il n'y a que de la bêtise chez l'homme. Soyez un peu humble, reconnaissez que vous n'êtes pas capable de juger, alors ne jugez pas. Ne jugez ni Dieu, ni le diable, ni les gens, ni vous-même. Vous, vous avez été jugé à la croix il y a 2000 ans, votre affaire est réglée, vous êtes pardonné, vous avez été élu, vous irez au ciel, amen. Le perdu, ça ne vous regarde pas, pourquoi? Le diable, ça ne vous regarde pas, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu connaissait le bien et le mal? On n'en sait rien. Et pourquoi est-ce qu'il veut se débarrasser du mal? Ça le regarde. On ne peut pas juger de tout. Mais on peut voir que ces choses existent et on peut voir comment Dieu agit avec ces choses. Par rapport à ce qu'il dit. Rappelez-vous de tout ce que je vous ai enseigné vendredi et tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Montrez-moi que c'est faux. Mais montrez-le-moi, ne vous mettez pas dans votre coin en disant « Oui, ça ne me semble pas juste, mais montrez-moi ce qui est juste. » On ne peut pas juger avec justice au sujet de toutes ces choses. C'est pourquoi C'est par amour et avec foi que nous vivons en communion avec Dieu, que nous vivons en communion les uns avec les autres, et non pas avec raison. On n'est pas assez raisonnable. On n'a pas assez d'intelligence pour pouvoir vivre les uns avec les autres. On n'est pas assez intelligent pour pouvoir vivre avec Dieu. On n'est pas assez intelligent. On ne vit que par amour et par la foi, par la croyance. Seigneur, tu l'as dit, ben je le crois. Mon frère, tu me dis que tu m'aimes, ben je le crois, même si je vois que des fois tu me fais des vacheries. Oui, oui, c'est comme ça. Sa sagesse, la sagesse de Dieu, mais c'est tellement pas la nôtre. Mais tellement pas la nôtre. Alors restons calmes, paisibles, reconnaissant d'avoir été élus. Nous ne nous posons pas trop de questions au sujet de ceux qui ne l'ont pas été. D'ailleurs, eux, ils s'en foutent complètement. Hein. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. S'ils entendent ce que je prêche, ils vont dire, voyez, leur Dieu est injuste, mais en même temps, ils disent, on n'y croit pas dans leur Dieu. C'est incohérent. Nous avons été choisis pour vivre avec lui de grâce en grâce, de cadeau en cadeau. Tout n'est que cadeau. Réjouissons-nous d'avoir été choisis comme cela. C'est une belle chose. C'est la plus belle des choses. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est immérité. On ne mérite rien du tout. Maintenant, dans le passé éternel, toutes ces choses ont été discutées. Toutes ces choses ont été établies. Et nous étions là. Et quand nous nous retrouverons devant notre Dieu, on aura le souvenir de ces choses. On s'en souviendra, on dira, ah, mais oui. Et tous ces cas que nous faisons, des personnes et des choses et des événements, on dira, broutille, futilité, fétu de paille, c'était rien, rien. Alors, réjouissons-nous de ce qui est le tout de notre Dieu qui nous a choisis et qui veut vivre avec nous pour l'éternité. Soyons reconnaissants, louons-le, rentrons dans, dans la louange, et même si nous ne comprenons pas, c'est par amour et avec foi, dans l'espérance et non pas avec raison. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, ce début d'année, ce premier culte, que nous soyons sages pour bien nous souvenir que nous n'avons à juger ni les uns, ni les autres, ni le diable, ni personne, ni toi, surtout pas toi. Même pas nous-mêmes. Paul dit, je ne me juge même pas, c'est Dieu qui est mon juge. Et ce n'est pas parce que Dieu est mon juge que je ne me juge pas, que je me permets de faire n'importe quoi. Paul était tellement clair au sujet de ces choses. Merci de nous ouvrir un petit peu la porte pour que nous les comprenions un petit peu et que nous puissions aller de l'avant avec cette même sorte de foi qu'il avait, enseignant les mêmes choses qu'il enseignait pour vivre la même sorte de qualité de vie éternelle qu'il vivait. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Alors, c'est un privilège pour moi de tenir le micro ce matin devant vous. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'aller sur ce que j'ai à vous dire, j'aimerais tout simplement donner une prestation, un chant. Excusez, je n'ai pas de belle voix comme le frère Alain et Michel. Ce chant dit « Comme un petit enfant qui découvre la vie ». Alors, pour moi, c'est moi, Boukari. Comme un petit oiseau qui sort de son nid. C'est toujours moi qui sors de mon nid. Comme la fleur des champs au printemps refleurie. Christ, enfin, je te vois. Aujourd'hui, je le vois. Parce que je vous vois. Comme un petit enfant qui découvre la vie, comme un petit oiseau qui sort de son nid, comme la fleur des champs au printemps refleurie. Christ, enfin, je te vois. Sur ton chemin de douleur, souffrir et mourir pour moi. J'ai vu couler ton sang, tes larmes sur la croix, et j'entends tes soupirs et le son de ta voix qui me dit je t'aime sur moi. Tu es là dans ma misère pour me montrer le chemin, mais pas parmi les pierres, sans guide par tes mains. Chaque jour de ma prière, je vais te louer sans fin, car tu es mon Seigneur maintenant. Fais de tout homme ton frère, tu verras comme c'est bon. Tu reprendras sur la terre l'espoir à mon nom. Au retour de ta prière, très nombreux ils viendront, car j'ai mis mon message en toi. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous le disais, je n'ai pas une belle voix, mais le message me touche beaucoup. Je me réfère d'aujourd'hui, de tout ce que, durant mon séjour ici, le frère, le pasteur Michel Janton. Ça me parle beaucoup de ce pasteur. Voilà pourquoi j'ai tenu à chanter cette chanson. Merci. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, je voudrais tout simplement adresser mes sincères reconnaissances à tous ceux du château pour votre bienfait depuis mon arrivée. L'accueil chaleureux, vos prières, l'ambiance que vous aviez créée durant tout mon séjour ici. Permettez-moi de vous citer quelques lignes, ce qui m'a touché le cœur. La façon dont vous demeurez ensemble, le partage du repas quotidien, le dialogue, vos réunions satisfaisantes, l'organisation en général, l'amour des uns et les autres, tant bien que c'est pas facile, mais vous l'aviez accepté. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre disponibilité de temps que vous m'aviez donné pour la découverte de votre pays qui est la France. Tels que les points de vente, les différents magasins, Disneyland, quelques artistes, les restaurants, vos recettes, vos charmants cadeaux, la surprise qui a été faite, qui est mon anniversaire, donc qui a été le jour de la Noël. Alors, tenez-vous bien que cela est une première pour moi. D'éteindre les bougies, accompagné de pâtisserie, je ne sais pas comment vous appelez ça parce que je l'ai mangé quand même, c'était blanc, couleur marron, je ne sais pas. J'ai nommé pâtisserie, je ne sais pas. J'ai versé de larmes de joie au fond du cœur ce jour-là. Je dirais que j'ai passé le temps cette nuit, vous ne pouvez pas imaginer. Je voulais compter les tôles ou bien les plafonds. Michel, merci d'avoir me tiré comme une graine perdue dans le sable noir. Quand je repense à cela, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas où dirais-je, je suis dans le ciel. Alors je me remue de joie, comme le message que j'ai entendu. Nous nous retrouverons un jour dans le ciel. Et c'est là où nous pourrons beaucoup encore louer le Seigneur. Je me réjouis à chaque fois que j'écoute ses interventions. Que Dieu lui bénisse. Alors, voici en quoi cette découverte me servira sur ma vie professionnelle. Elle me permettra de voir plus loin dans mes projets l'ouverture d'une bibliothèque pour les jeunes. Construire des chambres d'accueil, un dépôt pharmaceutique, améliorer la confection de mes produits, améliorer ma salle d'exposition, organiser ma vie familiale et être un modèle, un exemple de vie sanctuarisée dans ma région et à l'église, car vous m'avez donné tout ce qu'il faut. Alors, la balle est dans mon camp. À moi de jouer. Merci une fois de plus. Je ne saurais finir mes propos sans vous demander de prier pour moi, ma famille, mon pays, ma région, mes projets, toutes les initiatives que j'emprendrai et pour tous les jeunes qui sont en difficulté et orphelins à mon centre de formation. De même, nous prierons aussi pour vous. Seule et seulement vos prières me suffira, mes frères en Christ. Le secret est la loi d'attraction. Je l'ai maintenant. Michel a prié, il a prophétisé sur moi et sa grâce m'a suffi. Beaucoup de personnes retrouvent leur compte et mangent à leur faim dans ce métier de mode grâce à cette prière qui a été faite. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, je vous dis au revoir, car tôt le matin, je reprendrai le vol pour mon pays avec des larmes, car vous me manquerez. À bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, merci.
Merci, Dieu te bénisse. Et on est très content de te voir. Malheureusement, c'était un peu court, mais c'est vrai aussi que bon, j'ai visité le terrain que l'État lui a offert là-bas. C'est 11 000 mètres carrés, je crois, c'est ça. Et il a déjà posé les fondations de son école. Et il est autonome maintenant. Il se débrouille financièrement seul. Il y avait juste un problème, c'était le problème de l'eau, parce qu'il fallait aller chercher l'eau très loin. Et vous savez comment Nicolas a été touché en Belgique, et il a touché les cœurs des gens là-bas, et ils lui ont donné la possibilité de réaliser quelques projets là-bas en Afrique. Alors, Nicolas, quand il a vu tout ça, il a dit, moi je t'offre un puits. C'est quand même 80 000 francs français, et c'est Nicolas, c'est pas moi, hein. C'est pas assez faisable, c'est rien, c'est entre noirs maintenant. Ah oui. Ça, c'est magnifique, on peut applaudir. Hein. C'est venu du cœur de Nicolas pour le frère Boukari, et je me réjouis de voir ce forage. On viendra là à Fada, on prendra des photos, on se réjouira ensemble de cela. Et là, il va mettre, comme il vous a dit, il va faire une bibliothèque parce qu'il se rend compte que la lecture, c'est très important, et donc il va promouvoir toutes ces choses-là. C'est magnifique, c'est un homme qui va de l'avant, qui entreprend, qui réussit ce qu'il fait, qui a une intelligence vraiment largement au-dessus de la moyenne des ours. Et je suis très très content de vous l'avoir présenté. Et il va revenir, on va l'inviter avec sa femme, son fils, l'année prochaine, au mois d'août, et puis on fera une grande tournée en France. On ira aussi dans mon beau pays, la Suisse. Tu ne peux même pas imaginer comme c'est beau. Mais on n'ira pas en hiver, on ira en été, parce que c'est vraiment les pieds trop, c'est difficile. Mais Boukhari est le seul noir qui ne se plaint pas du froid. Regardez comme il est là. Manche courte, tranquille. Hier, on s'est promené dehors avec, en chemise. Il ne se plaint pas. Il dit, non, ça va. Oui, peut-être un peu les pieds de temps en temps. Il ne se plaint pas pour la bouffe, il bouffe tout. c'est vraiment étonnant, c'est magnifique. Et je me réjouis aussi que vous connaissiez son épouse. Et puis, ce qui serait bien aussi, c'est que vous puissiez venir là-bas et voir aussi ce qu'il fait là-bas. Voir toutes ces personnes qui sont maintenant, qui sont sorties d'affaires grâce au travail qu'il fournit là-bas. Et ça me ferait plaisir que vous puissiez voir ça. Voilà, que Dieu te bénisse, Boukhari. Je suis content de te compter parmi mes meilleurs amis. Que Dieu te bénisse. Merci. Adieu, te bénisse. À bientôt. On va chanter encore. Qu'est-ce qu'on va chanter? Qu'est-ce qu'on chante, les musiciens? Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on chante? Je chante à mon sauveur, le 25. Allons-y. Je chante à mon sauveur des louanges d'amour qui viennent à mon cœur. Il éclaire l'onde mes jours de sa vraie lumière. Je vois ma vie changer, tout le bien qu'il m'a fait en me pardonnant. Pour que j'ai à toute heure du jour un cœur débordant d'amour et de joie. Je chante à mon sauveur des louanges d'amour. Il éclaire le long de mes jours de sa vraie lumière. Je vois ma vie changer, tout le bien qu'il m'a fait en me pardonnant. Pour que j'ai à tout un vieux jour un cœur débordant d'amour et de joie. Je chante à mon sauveur des louanges d'amour qui viennent dans mon cœur. Il éclaire le long de mes jours de sa vraie lumière. Je vois ma vie changer, tout le bien qu'il m'a fait en me pardonnant. Pour que j'ai à tout heure du jour un cœur débordant d'amour et de joie. Amen, amen. Vous voyez, une prophétie, elle s'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé que ça se passerait comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas aller contre une prophétie. Vous ne pouvez faire que l'accomplir. Et c'est la même chose. Pensez toujours ces choses-là. Pensez toujours cela et réjouissez-vous. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.